Bonjour. Lorsque j'ai commencé à travailler sur le tabernacle, au bout d'un moment, je me suis arrêté. Je me suis dit, y a trop à dire. Et moi, je suis quelqu'un de très analytique. Donc la moindre chose a de l'importance, et on le sait, n'est-ce pas, on l'a dit déjà, tout avait de l'importance pour Dieu. Et donc, je pourrais facilement faire quelque chose qui dure aussi longtemps que la construction du tabernacle, en allant au fond des choses pour chaque élément. Et à un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de devenir juif, hébreu, de retourner dans le désert pour comprendre ce que Dieu a fait pour les hommes. Et la réponse est non. On n'a pas besoin de connaître en détail, on n'a pas besoin de connaître la Bible en hébreu, on n'a pas besoin de devenir un érudit des choses de la Bible et du passé pour bien comprendre ce que Dieu a voulu pour nous. Et c'est important, n'est-ce pas, de préciser ça, parce qu'il y a des religions où c'est un absolu que de retourner à la source de la source, de lire le livre dans la langue d'origine, parce que sinon, on est en train de corrompre la vérité. C'est le cas, par exemple, pour l'islam. Et donc, Dieu n'a pas voulu que les païens, c'est-à-dire nous qui sommes des non-juifs, enfin, moi un peu moins que vous, parce que moi, je suis d'ascendance juive, mais que nous devenions des juifs pour comprendre le plan du salut. Une chose est importante. Une chose est importante. C'est de comprendre que Dieu est notre créateur. Que l'homme a péché. Que ce péché nous éloigne de Dieu de façon absolue et définitive. Que ce péché a créé un court-circuit. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que la sainteté de Dieu est entrée en contact avec le péché et ce sont deux choses qui sont incompatibles. Un court-circuit, c'est lorsque la phase et le neutre se rencontrent, n'est-ce pas ? C'est quelque chose comme ça, ça pète. C'est pas que l'un n'aime pas l'autre, c'est que juste ils sont pas de la même nature. Et quand ils se rencontrent, ça fait des étincelles. Et c'est ce qui se passe lorsque le péché ou le pécheur rencontre Dieu. Il y a une étincelle qui est fatale, qui amène à la mort. J'aimerais donc qu'on aille dans le livre d'Exode, au chapitre 25. Ah, c'est le sourire, je crois que c'était moi qui t'ai vu.
C'est toi,
c'est toi,
un peu à l'ombre.
Le soleil reflète le mur et
tu redescends.
Oui, on peut descendre.
Non.
Voilà, je vais juste lire les premiers versets, les premiers 9 versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'y habiterai, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'est quoi un tabernacle ? C'est quoi ça ?
C'est ça.
Ok ?
C'est la maison de Dieu ?
Non. Enfin, oui, mais non. Le tabernacle, c'est une tente. C'est avant tout une tente. Voilà. C'est une tente fabriquée avec tous les matériaux qu'on vient de citer. Mais c'est une tente. C'est quelque chose qui est destiné à être porté. C'est démontable, comme l'a dit... Quelles sont les tentes aujourd'hui démontables, les gens qui travaillent avec des tentes qui sont démontables ? Non, quelqu'un qui travaille.
Cirque.
Le cirque. Les gens, il y a des cirques itinérants, n'est-ce pas ? Ce sont des tentes énormes. Et à chaque fois, il faut tout remballer et tout remettre en place. Mais vous savez quoi ? Avec le temps et l'habitude, ça se fait à une vitesse, c'est incroyable. Ça va très très vite. Donc je pense qu'ils ont souffert au début. Mais après, n'est-ce pas, ça allait, hop. Puis après, il y en a, c'était leur boulot, hein, donc voilà. Vous ferez l'attente, vous s'en occupez.
Ils ont dû apprendre une discipline.
Ils ont dû apprendre à se discipliner, voilà. Donc c'est une grande tente portable qui devait accompagner le peuple jusque dans la terre promise. Et donc, la différence avec les autres tentes, c'est qu'effectivement, elle était fabriquée selon un plan très très précis et avec des objets et du matériel très précis. À quel moment et pourquoi Dieu a-t-il demandé à Moïse de construire un tabernacle, une tente ? À quel moment ?
Dans la journée.
Dans la journée, ah ! Alors, on va lire ça dans Exode.
Après les commandements.
Ah. C'est le mont Sinaï. Voilà. En même temps qu'il a reçu les tables de la loi, Moïse a reçu ce commandement de Dieu. N'est-ce pas ? Et souvent, on l'oublie. Hein, on met beaucoup d'emphase sur la loi, ce qui est normal. Mais en même temps, il y a cette demande donc, dans Exode 19. Alors. Non, ça c'est autre chose. On va lire dans Exode 19, mais c'est juste pour donner un peu du contexte à cette tente. Alors, je vais lire à part 19, verset 10. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans trois jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » C'est sérieux, là. Ça rigole pas. C'est quelque chose qui fait peur. Il y a de l'épouvante dans le peuple d'Israël. Cet événement se situe juste avant la réception de la loi et juste avant que Dieu demande à Moïse de construire un tabernacle. On est donc dans un entre-dieu, n'est-ce pas ? Il y a eu cette destruction de la terre par le déluge. Il y a eu ce temps en Égypte. Et Israël, Dieu se souvient de son peuple. Il va les chercher dans le pays d'Égypte. Mais vous vous rappelez les dernières paroles de Dieu lorsqu'il y a eu le déluge, après le déluge, Dieu a dit qu'il ne contestera plus avec l'homme parce que, avec l'esprit de l'homme, parce que celui-ci n'est que chair. Et en même temps, il a promis qu'il ne détruirait plus la terre. Mais Dieu a toujours le même problème avec le péché de l'homme. La présence du péché est quelque chose, comme je l'ai dit avant, qui crée un problème pour que Dieu puisse véritablement rencontrer l'homme. Et donc l'homme ne peut pas apparaître dans la présence de Dieu sans qu'il se sente en danger, menacé. Non pas parce que Dieu est méchant, mais parce que, comme je l'ai dit avant, il y a une incompatibilité de nature entre Dieu et l'homme. N'est-ce pas ? Dieu ne peut pas juste changer sa nature et dire aux hommes, mais venez, vous êtes sympas, finalement, vous êtes des pauvres gens, je comprends votre problème. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas, tout simplement, il ne peut pas. Et donc, j'ai déjà eu l'occasion de dire, n'est-ce pas, que Dieu ne fait pas la différence entre l'homme et son péché. Nous, on essaye de diviser les deux, on dit oui, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime l'homme pécheur. Dieu ne peut pas faire la différence. Celui qui ira en enfer, c'est l'homme avec son péché. Celui qui sera victime de court-circuit ou de l'épouvante, là, eh bien, ce sera l'homme avec son péché. Mais Dieu aime l'homme. Dieu aime l'humanité. Il aime sa création. Et il va trouver un moyen de montrer cet amour. C'est trouver un moyen de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette épouvante qui s'installe dans le peuple à chaque fois que la présence de Dieu vient sur terre. Et le tabernacle, c'est le moyen que Dieu a mis en œuvre. Il a créé ce que j'appelle une zone tampon, une zone dans laquelle il va pouvoir se passer quelque chose, une sorte de sas dans lequel Dieu va pouvoir apparaître. Il va pouvoir parler aux hommes. Il va pouvoir leur pardonner leurs péchés sans que les hommes n'aient peur, sans qu'il y ait ce danger de perdre sa vie. Parce que Dieu, n'est-ce pas, est trois fois saint. L'humanité est corrompue par le péché. Et donc l'amour de Dieu pour les hommes de l'ancienne alliance, ça s'est manifesté dans un lieu qui serait dédié, un tabernacle, une tente dédiée au rapprochement de Dieu et des hommes, sans risquer d'être pétrifié sur place. Et donc, comme on l'a dit, c'est sur le mont Sinaï que Moïse a reçu le plan, enfin la demande pour construire le tabernacle en même temps qu'il a reçu la loi. Pour construire ce tabernacle, Moïse a fait appel à des entreprises extérieures. Hein, il n'a pas fait un appel d'offres pour savoir où il pouvait et avec qui il pourrait faire construire au moins cher. Mais Dieu, en grand architecte, n'est-ce pas, lui a dit tout ce qu'il fallait faire, le plan. Et il a aussi demandé à ce que le peuple soit impliqué. Il a demandé à ce que les objets et les matériaux soient des objets et des matériaux qu'ils possédaient eux-mêmes. Ils avaient ramené d'Égypte de l'or et de l'argent. J'espère qu'au passage, ils ont fait fondre leur statue et tout ça, hein, bon, peut-être. Mais en tout cas, ils avaient aussi, n'est-ce pas, des choses à proximité. Les dauphins, sans doute, dans la mer, hein, la mer Rouge. Il y avait les peaux de bélier, tout ça, c'est des choses qu'ils avaient. Et ils n'avaient pas à aller chercher des choses ailleurs, vraiment. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment touché, que je n'avais pas réalisé, en fait, en le lisant avant. Il est dit qu'ils recevraient tous les éléments qui étaient donnés de bon cœur. N'est-ce pas? De bon cœur. C'est pas on va aller donner, quoi qu'il vous en coûte. Mais donner de bon cœur. Ça vous rappelle pas quelque chose pour nous? N'est-ce pas? Lorsque nous donnons dans l'Église, nous devons donner de bon cœur. Sinon, c'est pas recevable, en fait. Dieu ne reçoit pas ce qui est donné par un mauvais cœur. Ça ne l'intéresse pas. Donner de bon cœur des matériaux et des biens qui leur appartiennent. Et donc Dieu voulait construire un endroit où il pourrait créer un lien de cœur avec son peuple. Vous voyez le contraste entre cette manifestation de Dieu avant qu'il donne la loi et maintenant le projet de Dieu qui est de créer un environnement paisible, un environnement où le cœur des hommes est impliqué. Il veut un lien de cœur avec son peuple, un endroit où tous pourraient venir pour recevoir de Dieu le pardon des péchés, au travers des sacrifices d'animaux, qui évidemment tous préfiguraient du sacrifice ultime de Jésus sur la croix. Mais ça, eux, ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. N'est-ce pas ? Le tabernacle, c'était une tente, une structure temporaire, Et tous les éléments, le culte, les rituels, les sacrifices, le sacerdoce, c'est-à-dire la responsabilité d'Aaron, tout ça, ça parlait de façon prophétique de la personne de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, les enfants ? Ça parlait prophétiquement de la personne de Christ.
De sa nature.
Oui, mais le terme prophétiquement, ça signifie quoi ?
En avance.
En avance.
C'est ce qu'il y a.
Donc les enfants, tout ce que Israël faisait dans ce tabernacle parlait de ce qui allait venir plus tard avec Jésus. Et donc, et notamment, n'est-ce pas, son sacerdoce, sa responsabilité de souverain sacrificateur. Sur la croix, Jésus a dit une parole très forte. Qu'est-ce qu'il a dit ? Tout est accompli. Et en disant ça, il disait le sacrifice ultime a tout accompli, a tout payé, a tout réglé. Il n'y a pas de reliquat, il n'y a pas de dette. Ce sacrifice, il est le dernier. Il est décisif et il est perpétuel. C'est-à-dire que il a une valeur qui a commencé il y a 2000 ans, sans doute beaucoup plus avant, mais en tout cas il y a 2000 ans pour nous, et il dure encore aujourd'hui. Et donc, et le culte à Dieu qui était fait dans ce temple, dans ce tabernacle, ce culte sera désormais non pas un culte de chair, c'est-à-dire avec des hommes habillés en soutane, avec des encensoirs, vous voyez à quoi je fais allusion, qui effectivement... garde une certaine forme pour qu'il rappelle le tabernacle, eh bien, désormais, le culte à Dieu ne sera plus de cet ordre-là, mais ce sera un culte en esprit et en vérité. Ce ne sera plus un culte visible. Et le sanctuaire, c'est quoi ?
C'est la maison de Dieu.
Pardon ?
La maison de Dieu où les humains peuvent venir.
Oui, mais là, le sanctuaire, précisément.
Le lieu très saint.
C'est là. Dans ce sanctuaire, il y a
l'arche.
C'est ça, l'arche. C'est ça. On va mettre là. C'est là-dedans. C'est là. C'est une toute petite pièce.
C'est l'arche.
C'est là, avec l'arche de l'Alliance. Et donc, ce sanctuaire ne sera plus un sanctuaire fait de bois, mais ce sera un sanctuaire fait de chair. Parce que le tabernacle ne sera plus un objet, mais sera dans notre cœur un objet spirituel. Dans Hébreux 8, on va lire Hébreux 8 à partir du verset 1. Il faudrait lire tout Hébreux, mais bon.
Ouais.
Le point capital de ce qui vient d'être dit, donc il vient de parler de Melchizédek et de son sacerdoce, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Le ministre du sanctuaire, c'était le souverain sacrificateur qui était le seul à avoir le droit d'aller dans le lieu très saint. C'était le seul. Et il y allait une fois par an. Et il y allait comment ? Avec quoi ?
Il se lavait.
Oui, il se purifiait, tout ça, oui. Oui, oui, oui. Mais il venait et il apportait le sang des animaux pour le pardon des péchés du peuple, pour le sien et pour le pardon du péché du peuple. Et il faisait couler ça sur l'arche. Et c'est ça qui faisait que d'année en année, le peuple de Dieu était pardonné et pouvait continuer à marcher avec Dieu. Et donc, verset 3, « Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établi sur de meilleures promesses. Jésus n'était pas destiné par sa famille à être un sacrificateur ou un souverain sacrificateur. Il était de la famille de Judas. Et il n'était pas destiné à ça. Mais Dieu l'a nommé. Il est lui-même celui qui s'est avancé et qui a le droit d'être le souverain sacrificateur. Et donc il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, donc si celle-là avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur !» Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Les sacrifices qui étaient faits là, sur cet autel, ont tué des moutons, ont tué des taureaux, ont tué tous les animaux, selon qu'on était riche ou pauvre. Et toutes ces choses parlaient de Jésus. Tous les ustensiles là vous parlent de Jésus. Mais dans cet endroit, c'était la rencontre entre Dieu et Moïse, entre Dieu et le souverain sacrificateur. Mais aujourd'hui, cette rencontre, elle peut se faire sans que nous soyons obligés de passer par tout cela. Parce que Jésus-Christ a été sacrifié une fois pour toutes. Et que son sang a coulé, a été répandu. Et cet endroit, ce sanctuaire, aujourd'hui, désormais, il peut être dans notre cœur. Et la rencontre avec Dieu, la rencontre, ce lien d'amour, il se fait dans notre cœur. C'est pour ça que la religion ne peut pas satisfaire. Les rites religieux ne peuvent pas satisfaire à la foi de l'homme et à Dieu. Vous avez encore un peu de... Parce que moi, j'ai pas fini. Hein. J'aimerais juste mettre en lumière trois objets du tabernacle qui parlent tous de Jésus. Vous connaissez ce texte où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le chemin, la vérité et la vie sont dans le tabernacle. Où ça ? De toute façon, il y a un chemin là, hein, pour aller... Voilà, mais il y a des objets qui parlent de ça. Ça veut dire que quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il l'a dit parce que ça pouvait faire écho à des gens qui étaient aux Juifs, donc, voilà, qui avaient en tête la connaissance du tabernacle et des symboles. Et donc, mais avant ça, dans Matthieu 27, au chapitre 50, quand Jésus meurt, il dit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Il est où le voile ?
Il est entre les deux parties.
C'est où
le voile ?
C'est ça. Cette partie qui séparait le lieu saint du lieu très saint, là il y avait les sacrificateurs, ici il y avait juste le souverain sacrificateur, cette partie qui était inaccessible à qui que ce soit, eh bien elle est devenue accessible lorsque Jésus est mort. La déchirure du temple de haut en bas, ou de bas en haut, je sais, non, de haut en bas. De haut en bas. Ça, c'est la déchirure du corps de Christ. C'est cette déchirure-là qui est manifestée et qui marque l'ouverture dans le lieu saint. Très saint. Et donc, ouais, le voile s'est déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et donc, et dans Jean 14, donc Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » N'est-ce pas ? Jésus a dit « Il n'y a qu'un accès à Dieu, il faut passer par moi. » Ailleurs, il a dit « Je suis la porte. » Je suis la porte. Et donc, et lorsque Jésus a... C'est pour ça que, en fait, ces paroles de Jésus sont très très fortes. Nul ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, ça c'est une phrase qui est inacceptable pour le monde. On ne peut pas le dire. Je l'ai dit dernièrement à quelqu'un dans ma famille. Et on m'a dit, tu me fais peur de dire ça. Mais c'est ce que Dieu dit. Nul ne vient au Père que par Jésus. Et lorsque Jésus a dit ça, et qu'il a prophétisé ensuite à ses disciples qu'ils ne seraient pas épargnés, n'est-ce pas, par la persécution, il savait que ces paroles qu'il disait, eh bien, c'était des paroles qui allaient allumer un feu, qui allaient les brûler. Parce qu'évidemment, ces paroles de Jésus sont des paroles brûlantes, sont des paroles qui provoquent l'animosité du monde et de Satan. Et donc, depuis la résurrection, depuis la Pentecôte, le monde et Satan n'ont pas arrêté de taper sur le nom de Jésus, d'interdire que le nom de Jésus... Vous comprenez bien que ce n'est pas son prénom dont on parle là qui est un problème, c'est la puissance qui est dans ce nom. Dans le monde entier, et tout de suite après, n'est-ce pas, Pierre et Jean, lorsqu'ils ont, ils ont guéri un boiteux, ouais, enfin, donc, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on leur a dit ? Ils sont passés devant les prêtres qui les ont menacés, pour les intimider en leur disant... Il faut pas qu'il parle au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de parler au nom de Jésus. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Et ça n'a pas arrêté depuis plus de 2000 ans. Ne parlez pas au nom de Jésus si vous ne voulez pas avoir de problèmes. Si vous ne voulez pas être persécuté, dites, tous les chemins mènent à Dieu et on vous laissera tranquille. Mais si vous parlez, si vous lisez la parole et si vous dites que nul ne vient au Père que par Jésus, vous serez persécuté. Donc Jésus est le chemin. Dans le tabernacle, il y avait donc ce voile-là qui a été déchiré, et qui donc a permis, permet désormais, montre le chemin vers le lieu saint, c'est-à-dire l'accès à Dieu. Il ouvre l'accès à Dieu et au lieu très saint. Donc le voile, c'est l'ouverture du chemin à Dieu. Il y avait donc ce voile qui marquait une limite infranchissable, et qui empêchait les hommes d'approcher de Dieu plus que ça. C'était la limite maximale. Et donc, il y avait aussi Jésus, la vérité. Jésus, dans Jean 8, 32, vous lisez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a un homme qui a dit la religion, c'est l'opium du peuple. Qu'est-ce qui a dit ça ? Eh bien, vous savez quoi ? Il avait raison. Il avait raison. Il a raison. N'est-ce pas ? Les religions sont soporifiques. Et elle vous enferme, elle vous endorme, et ensuite elle vous enferme dans une prison mentale de laquelle il est très difficile de sortir, en fait. Mais ce qu'il n'avait pas compris, et d'ailleurs qu'aucun des dictateurs n'a jamais compris, c'est que la vérité de Jésus-Christ, c'est la délivrance de toute forme d'asservissement, y compris celle de la religion. La vérité de Jésus-Christ, c'est la délivrance totale qui nous permet d'entrer, de sortir, d'être libre de nos mouvements et de ne pas être fixé sur tout ce qui enferme les hommes. Donc là, ça peut être spirituel, ça peut être politique, ça peut être religieux, social, intellectuel, communautaire, familial, tous ces systèmes qui encadrent, qui veulent encadrer les hommes. Il y a aussi des gens. Il y a des gens qui veulent prendre pouvoir sur vous, sur les personnes. De tout ça, Christ nous libère, nous affranchit, nous donne la liberté. Et dans le lieu saint, il y avait une table avec les pains de proposition. Très haut. Il n'y a pas de pain. Qui a mangé les pains ?
Pas moi.
Papa.
Vous avez à la fin ce matin.
Il y avait les pains de proposition qui étaient mangés toutes les semaines, tous les Shabbats, par les sacrificateurs. Et ça, ça symbolisait la providence divine renouvelée semaine après semaine. C'est la même idée avec la manne hein, qu'on trouve après dans le... C'est la providence divine qui est renouvelée semaine après semaine, mais qui a une durée limitée. Ça a une durée limitée dans le temps. Et donc Jésus, il s'est comparé lui-même au pain, en disant qu'il était le pain vivant, le pain de vie descendu du ciel, et que celui qui mangerait de ce pain-là, eh bien, ne mourrait jamais. Je suis le pain de vie, Jean 6, 48. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc la chair, le sacrifice de Jésus-Christ, nous amène, c'est un chemin vers la vie éternelle. Et donc on ouvre l'entrée dans le lieu saint en déchirant le voile. Et on reçoit là de la nourriture qui va nous permettre de vivre éternellement. Dieu n'asservit pas ses enfants, il les libère de tous les liens. Et il les fait vivre de sa bouche. S'il y a un verset qui m'a impressionné dans la Bible, c'est celui-là. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous et moi, en tant que temple du Saint-Esprit, nous ne sommes pas alimentés par quoi que ce soit qui vienne de l'extérieur. Comme il n'était pas question que le peuple d'Israël aille chercher à l'extérieur les ouvriers et la fabrication du temple. C'est par la bouche de Dieu que nous sommes nourris. Pas par nos bonnes idées, pas par notre connaissance intellectuelle de la Bible et de tous les objets, mais parce qu'il y a quelque chose là, la rencontre entre Dieu et un homme dans un sanctuaire où l'un et l'autre peuvent communiquer. Et moi, je peux recevoir la nourriture venant directement de la bouche de Dieu. Jésus a dit aussi, il est la vie. La vie. Jean 8, 12. Jésus parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je vous parle de quoi ? On pourrait dire beaucoup de choses de ce chandelier. Je suis la lumière du monde. Il y avait donc le chandelier là, dans le lieu saint. Et c'était la seule lumière qu'il y avait. Ils n'avaient pas mis les néons, ils n'avaient pas mis quoi que ce soit, des LED, ils n'avaient pas. Ils avaient un chandelier qui éclairait. Il était allumé constamment. Et ce chandelier représente la lumière dans les ténèbres. Quelle que soit la masse de ténèbres que vous mettez, eh bien, la lumière continue à briller.
C'est-à-dire quoi, constamment ?
En tout temps. De façon perpétuelle, permanente, sans arrêt. Vous ne pouvez pas éteindre la lumière de Dieu. Vous ne pouvez pas. Et la lumière de Dieu éclaire tous les hommes. N'est-ce pas ? Israël était censé être la lumière de Dieu pour les nations. Dieu avait manifesté ça dans la 9e plaie, je crois, ou la... Oui. Lorsqu'il a mis des ténèbres sur l'Égypte. Il y avait de la lumière dans certains endroits, n'est-ce pas ? Dans certains endroits, il y avait de la lumière. Et les Égyptiens c'était obligé qu'ils voient la lumière. Mais eux, ils étaient dans des ténèbres telles qu'ils n'en avaient jamais connu. Et le jour ne se levait pas. Et c'était ténèbres après ténèbres. Mais il y avait de la lumière là où Dieu était présent. Et donc, la lumière éclaire tous les hommes, les justes et les pas justes, ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu. Ils voient la lumière. Et c'est ce que Jésus fait. Il est la lumière pour tous les hommes. Son sacrifice est valable pour tous les hommes qui veulent venir à lui. Et ceux qui reçoivent cette lumière, eh bien, sont dirigés vers la vie éternelle, dans le lieu très saint. Je me demande si le souverain sacrificateur n'avait pas des fois envie de rester là plus longtemps. N'est-ce pas ? Je veux dire, pourquoi est-ce que je sortirais finalement ? C'est si bien ici. Je ne sais pas. Quand Jean-Baptiste a déclaré à propos de Jésus « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il a présenté le moyen par lequel Dieu allait pouvoir sauver les hommes. Le moyen, c'était Jésus, le sacrifice de Jésus. Le souverain sacrificateur, il entrait là et il apportait une fois par an le sang qui servait à l'expiation de tous les péchés du peuple. Et il fallait, n'est-ce pas, qu'il y ait une victime innocente, un agneau sans tache, sans défaut. Et tout ça, ça parle de Jésus. Dieu avait dit à Moïse que le lieu très saint, ce serait le lieu de leur rencontre, tous les deux. Ils se rencontreraient là, dans le lieu très saint. Adam n'avait pas besoin d'un lieu très saint. Il était immergé dans la sainteté de Dieu. La rencontre se faisait lorsque Dieu allait se promener, mais ils se rencontraient. Et les choses étaient sans aucune équivoque, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Et je crois que ce coin-là, ce lieu très saint, est un petit coin du paradis, quelque part. Un endroit où Dieu se rappelle lui-même la relation qu'il avait avec l'homme avant, au commencement. Et où il fait en sorte que cela soit à nouveau possible, de façon imparfaite, dans ce temple fait de main d'homme, mais qu'il a rendu parfaite en étant un souverain sacrificateur qui agit non pas sur la terre, mais dans les cieux. Au-delà des cieux, il est dit. Et qui fait que nous pouvons rencontrer Dieu à nouveau dans des conditions analogues à celles d'Adam au commencement. Dieu a créé un sanctuaire qui, si nous le voulons bien, peut devenir notre paradis. L'endroit de l'échange de cœur avec Dieu. Je vais terminer, mais très rapidement. Je passe pas mal de trucs, mais bon, voilà. Il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent, c'est la place du Saint-Esprit dans le tabernacle. Parce qu'il est présent aussi. Le rôle du Saint-Esprit. Ça ne vous a pas échappé, n'est-ce pas, que pour la construction du tabernacle, Dieu a donné à Moïse des instructions très précises et exigeantes. Et qui n'a pas laissé les hommes livrés à eux-mêmes pour accomplir le travail. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Et Dieu a équipé des hommes normaux qui étaient là, des artisans, et il en a fait des hommes augmentés. Hein. Il en a fait des surhommes. Non, c'est pas ça, mais réellement, il leur a donné des capacités qu'ils ne possédaient pas. Exode 31, verset 2. « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide, Oaliab, fils d'Aïs Amak, de la tribu de Dan. » J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Dieu a donné les règles. Il a donné ses exigences. Mais il n'a pas dit, débrouillez-vous. Il a dit, moi je vais vous faire en sorte que vous puissiez faire ce que je vous ai demandé de faire. Je ne vous demande pas de faire des choses impossibles. Je vais vous équiper pour vous rendre capable. Jésus a dit qu'il bâtirait son église. Il n'a pas dit « je bâtirai mon église et ensuite, débrouillez-vous, faites-le vous-même. » Il a dit « je bâtirai mon église. » Il n'a pas dit autre chose. Et donc, ce ne sont pas des hommes qui sont appelés à construire l'œuvre de Dieu. Et c'est... Mais ce sont les hommes, n'est-ce pas, qui sont mis à contribution pour manifester la qualité et l'œuvre de Dieu devant le monde et devant les puissances spirituelles. Dieu a choisi des hommes et il les équipe. N'est-ce pas, vous lisez ça dans Romains, je crois que c'est chapitre 5, rapidement le... Non, c'est pas le chapitre 5, c'est il est dit en sacrifice vivant.
Oui, oui, oui.
Ah, 12. Ouais, 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 mais oui, c'est ça, bien sûr. Romains 12. N'est-ce pas, je vous exhorte par les compassions de Dieu, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et puis, il continue. Et donc il dit au verset 4, nous avons plusieurs membres dans un seul corps et tous membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, qui préside le fasse avec zèle, qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie, etc. Les dons, Dieu donne des dons à ceux qu'il a appelés à travailler dans l'Église. C'est pas juste, moi je suis capable, moi j'ai une bonne formation professionnelle, Je suis intelligent, je suis un bon orateur, donc je suis un bon orateur, donc je peux faire un bon prédicateur. C'est faux. C'est pas comme ça que Dieu a fait bâtir le tabernacle. Il a mis son esprit et il a pointé du doigt ceux qui devaient travailler là. N'est-ce pas ? Et ça, c'est le grand drame de l'Église aujourd'hui. C'est d'utiliser des compétences qui n'ont pas été attribuées par le Saint-Esprit pour essayer de bâtir l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas fait ça pour son tabernacle et Jésus ne le fera pas pour son Église. Il choisira les hommes et les femmes qu'il veut pour agir et faire dans son Église. Les hommes que Dieu choisit aujourd'hui encore ont pour rôle de rendre magnifique le temple de Dieu. Je ne parle pas des églises, des bâtiments. Je parle de vous. Vous, Dieu vous a équipé pour faire en sorte que vous deveniez magnifique aux yeux du monde. Parce que c'est le seul moyen que le monde a de voir que Dieu agit. Le monde veut voir que vous êtes un miracle vivant. Le monde veut voir que Dieu a fait en sorte que moi, qui suis un incapable, eh bien, je puisse aujourd'hui mettre deux mots derrière, l'un derrière l'autre. J'étais d'une timidité extrême. Rendre magnifique le temple, le tabernacle, c'est ce que ces ouvriers avaient été équipés pour faire. Rendre le tabernacle magnifique. N'est-ce pas, la communauté locale aussi doit être magnifique par la présence de Dieu, par la présence des dons spirituels que Dieu donne aux uns et aux autres. Les enfants de Dieu ont reçu le Saint-Esprit ou un don spirituel et un don spirituel destiné au service de Dieu et de l'Église. C'est le ministère. Nous sommes nous aussi sacrificateurs. Incroyable. Nous sommes nous aussi sacrificateurs. Contribuer à la magnificence de Dieu en nous servant les uns les autres, pas en nous servant des uns et des autres. C'est pas pareil, n'est-ce pas? En nous servant les uns et les autres. Pour que le monde voie la gloire de Dieu déployée au travers de l'amour que les enfants de Dieu ont les uns pour les autres. Le Saint-Esprit se manifestait, on l'a dit, par une nuée dans la journée et par une colonne de feu dans la nuit. Cette présence guidait le peuple jour et nuit et le rassurait. Il savait que Dieu était présent tant que la nuit était présente. Nous sommes, bien-aimés, le temple du Saint-Esprit. Jésus a promis que le Saint-Esprit, le Consolateur, viendrait pour faire sa demeure en nous. La demeure, n'est-ce pas, Jean 15, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Et il nous a dit, « Je ne vous laisserai pas seul, ma nuée restera sur vous, jour après jour, éternellement, sans discontinuer. » Que le Seigneur vous bénisse.